France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Crise politique en Allemagne, le conservateur Friedrich Merz échoue à devenir chancelier, c'est une première depuis 1949. Sa coalition gauche-droite était pourtant sur les rails. Alors simple contretemps ou hors-jeu définitif, on voit ça dans un instant en direct de Berlin. À suivre encore la direction de la SNCF qui se fait fort d'effacer la grève. Elle annonce 9 TGV sur 10 en circulation ce week-end. Nous vous donnerons le détail sur les autres trains. Nous parlerons également de l'adaptation au désert médical. Bonjour Gabin Bocquet.
Bonjour.
Et de nouvelles missions pour nos infirmières et infirmiers.
Oui, un texte a été voté hier au Sénat et il va permettre aux infirmières et aux infirmiers de prescrire des médicaments, de soigner sans passer par un médecin. Ça peut changer la vie des patients.
A tout de suite pour vos précisions. Nous parlerons également de la visite en France demain du président syrien, l'islamiste Ahmad al-Sharaa, au moment où son pouvoir multiplie les signes inquiétants. Nous parlerons également de la situation à Gaza. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Situation humanitaire qui ne cesse de se dégrader.
Oui, la trêve avait un peu amélioré les conditions des habitants en début d'année. On est maintenant totalement revenu en arrière. Le Programme alimentaire mondial dit qu'il n'y a plus de stock.
A tout de suite, nous verrons aussi que les familles de décorés de la Légion d'honneur en France veulent en priver l'ancien président Nicolas Sarkozy. À partir de 13h30, une chanteuse et une écrivaine face au choc du procès des viols de Mazan. Suzanne et Claire Berest, toutes deux bouleversées par le témoignage de Gisèle Pellicot. La première livre le récit de son viol dans un morceau intitulé « Je t'accuse ». La seconde en a fait un livre, « La chair des autres ». Elles sont nos invitées. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. La folie des lotos, vue par Cyril Petit du journal Ouest France. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, le clarinettiste Pierre Génisson, Calogero et Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Son agenda était déjà rempli. Déplacement à Paris demain, puis à Varsovie. Mais ce plan a volé en éclats ce matin. Le conservateur Friedrich Merz n'a pas été élu chancelier d'Allemagne. Il n'a pas obtenu une majorité absolue au Bundestag, à l'Assemblée allemande. Et le voilà affaibli. Avant même sa prise de fonction, qui reste tout de même possible. Et c'est aussi une mauvaise nouvelle au passage pour ses alliés français et polonais. Bonjour Sébastien Baer.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Berlin. Vous allez nous aider à comprendre. Les conservateurs à droite et les sociodémocrates à gauche avaient passé un accord pour élire Merz. Ça veut dire que certains de ces députés n'ont pas suivi la consigne ?
Oui, c'est exactement ça. Alors, on ne saura pas lesquels, car le vote est à bulletin secret, mais plusieurs ont effectivement fait dissidence. Ce vote, pourtant, aurait dû être une formalité pour Friedrich Merz. 328 voix lui semblaient acquises, celles des députés de son propre camp, la CDU, et celles des alliés sociaux-démocrates du SPD. Mais il n'en récolte finalement que 310. C'est une humiliation pour Merz, tête basse, visage fermé tout à l'heure, et un scénario auquel ne s'attendait pas la députée conservatrice Inge Grässle, que je viens de joindre.
C'est un choc et c'est un désastre. Je ne m'attendais pas du tout à ce résultat. Je suis vraiment ébahie. Ce n'est pas une bonne idée de la part de certains collègues de nous infliger ce résultat. Ça déclenche une crise politique. C'est un vrai désastre pour la démocratie.
Un désastre sous les yeux de l'ancienne chancelière Angela Merkel, venue assister à l'investiture de celui qui lui a succédé à la tête de la CDU.
Alors Sébastien, que va-t-il se passer maintenant ? Merz peut-il toujours devenir chancelier ?
Alors cet échec chamboule déjà tout le protocole très huilé de cette journée. La réception par le président, la prestation de serment, la passation de pouvoir ensuite avec Olaf Scholz. Il va y avoir un deuxième tour de scrutin, sans doute demain ou vendredi. En cas d'échec, troisième tour, où là, la majorité relative suffira. Friedrich Merz finira donc par être élu chancelier. Mais Alice Weidel, la dirigeante de l'AfD, l'extrême droite, deuxième aux législatives, voit les choses autrement.
Nous, l'alternative pour l'Allemagne, nous sommes engagés pour remettre ce pays sur pied. Nous sommes prêts à assumer la responsabilité gouvernementale et nous demandons de faire preuve de bon sens. Monsieur Merz devrait démissionner immédiatement et la voie devrait être ouverte à de nouvelles élections dans notre pays.
Comme le prévoit la Constitution, Olaf Scholz assure l'intérim à la chancellerie après ce faux départ de Friedrich Merz qui était attendu demain à Paris par Emmanuel Macron.
Merci Sébastien Baer en direct de Berlin. L'Allemagne érigée en anti-modèle ce matin sur France Inter par le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, qui a souligné les pannes à répétition, les retards multiples que connaissent les trains allemands à cause, selon lui, du manque d'investissement. Tout cela pour demander de l'argent à l'État, dit-il, pour le réseau français. Mais si des trains restent au dépôt depuis hier dans notre pays, c'est bien en raison de la grève à l'appel de deux syndicats. Jusqu'ici, ces effets sont plutôt limités, les grandes lignes épargnées. Et la SNCF se veut optimiste pour cette fin de semaine. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
9 TGV sur 10 vont circuler.
C'est en tout cas l'engagement que prend la SNCF pour ce week-end, avec un objectif, un seul pour le patron des lignes à grande vitesse, Alain Krakowicz.
C'est évidemment de faire circuler le maximum de TGV. Si votre TGV est supprimé, et j'en suis vraiment désolé, vous recevez au maximum jusqu'à demain matin un SMS ou un mail.
Alors si vous faites partie des malchanceux, de ceux qui resteront, qui devront rester à quai, la SNCF promet une compensation exceptionnelle, un bon de réduction de 50% à valoir sur un prochain trajet TGV valable jusqu'à fin août. Manière de se faire pardonner la gêne occasionnée, sachant que par ailleurs, si ce week-end votre train ne circule pas, il vous sera toujours possible de vous positionner gratuitement sur des places restantes dans d'autres trains le même jour ou d'annuler votre billet sans frais. Mais encore une fois, la SNCF met les bouchées doubles pour assurer cette offre de 9 TGV sur 10 en circulation.
Bon, tout le monde ne prend pas le TGV, Maxime. Qu'en est-il pour les autres trains ?
C'est vrai que c'est un peu plus problématique et le PDG Jean-Pierre Farandou ne s'en est d'ailleurs pas caché ce matin, ici même sur notre antenne. Il y a certains réseaux régionaux comme dans le Nord, en Ile-de-France, les TER, les RER, où les trajets sont fortement perturbés depuis hier et encore ce matin. Le patron de la SNCF qui se dit toutefois confiant dans le fait que le mouvement s'arrête assez vite, que le service public puisse reprendre ses droits. De l'espoir donc assez loin, à l'heure où l'on parle du scénario noir promis ces derniers jours, même si on sait que la vérité du jour, eh bien, diront certains, n'est pas forcément celle du lendemain.
Merci Maxime Debs. Le rail, comme la route qui lorgne sur la Manne, des péages autoroutiers. Les concessions des grandes sociétés vont arriver à leur terme à partir de 2031. Notre modèle de financement des infrastructures de transport est à bout de souffle, a dit hier le Premier ministre François Bayrou en ouverture de la grande conférence sur ce sujet à Marseille. Illustration, dans le département de Haute-Garonne, la collectivité vient de décider de geler une partie de ses subventions pour l'entretien des routes. Les communes vont avoir moins d'argent, Shannon Marini.
Le département ne donne pas de détails, mais il reconnaît une baisse de 10 à 20% sur son budget route. Et par effet domino, les petites villes, villages, en bout de chaîne en font les frais. C'est la fin d'un certain âge d'or pour Karine Brun, la maire de Lafitte Vigordane, à côté de Carbonne.
Il faut dire que le département de la Haute-Garonne était un des derniers à aider encore les communes dans l'entretien de leur voirie. Donc on avait quand même ce confort-là, et c'est vrai qu'on arrivait à assurer l'entretien correct de nos routes. Vous faites cette interview d'ici 2-3 ans, peut-être que ça ne sera pas du tout le même discours. Hein.
Selon l'association des maires ruraux, le département a suspendu par exemple la moitié de l'enveloppe dédiée aux routes de la communauté de communes du Volvestre. Pourtant, les maires ont besoin de cet argent qui doit couvrir l'entretien de la chaussée. Les bords des routes sont à la charge des communes et c'est déjà beaucoup. Patrick Lefebvre est le maire de Saint-Julien-sur-Garonne, une ville de 500 habitants dans le Volvestre.
On a les élagages et on a le fauchage qui représente entre 30 et 40 millions.
Cette année, par exemple, le Volvestre ne touchera que 230 000 euros au lieu du double promis. Ce sera 230 000 l'année prochaine aussi. Et pour la suite, rien n'est assuré.
Explication ici Occitanie. Eux sont les témoins privilégiés de l'état de nos routes. Les infirmiers et infirmières libéraux en zone rurale, ils couvrent des centaines de kilomètres par semaine pour soigner leurs patients. Eh bien, ils vont se voir confier de nouvelles missions pour tenir compte de la désertification médicale. Après l'Assemblée nationale, c'est le Sénat qui a voté le texte de loi hier soir. Gabin Bocquet, on vous retrouve. Alors, que vont pouvoir faire de plus ces infirmiers ? Qu'est-ce que ça change pour les patients ?
Avec ce texte, les infirmières et les infirmiers vont être dotés de nouvelles missions. Les notions de diagnostic infirmier et de consultation infirmière seront inscrites dans la loi. Ils pourront par exemple faire des bilans de santé à domicile, mais aussi prescrire certains médicaments sans passer par un médecin. C'est une petite révolution très attendue, notamment par Lise Dubois. Elle est infirmière libérale dans le Pas-de-Calais. Pour elle, ça va changer la vie des médecins, des infirmiers et surtout des patients.
Pour le patient, ça va être une beaucoup plus grande fluidité au niveau des soins, parce que c'est vrai que à l'heure actuelle, appeler un médecin qui puisse se déplacer dans la journée quand le patient n'est pas bien, quand il y a des douleurs, la chose la plus basique, eh ben, c'est très compliqué, et ce qui fait que le patient peut rester 2-3 jours avec des douleurs. Donc là, ça va permettre de mieux le soigner, une meilleure prise en charge, ça c'est clair.
De leur côté, certains syndicats de médecins s'inquiètent. Ils voient là une manière détournée de répondre au manque de médecins dans les territoires. Mais la présidente du Conseil national de l'Ordre des infirmiers, Sylvaine Mazière-Torrent, se veut rassurante. Pour elle, il n'y a pas de compétition avec le milieu médical.
C'est un texte qui est respectueux de la place et du positionnement et de l'apport que chaque profession a pour la prise en charge du patient. Nous ne sommes pas là pour remplacer les médecins. Nous sommes là pour travailler en coopération avec ces professionnels. Les autres professionnels.
Ce texte est donc important pour l'ensemble de la profession parce qu'il reconnaît la contribution des infirmiers dans le système de santé, leurs compétences et leur autonomie. D'ailleurs, certains sénateurs ont alerté hier soir sur les conditions de travail des infirmiers et des infirmières et ont fait un appel à la revalorisation de leur salaire.
Et ce texte doit maintenant être approuvé en commission mixte paritaire. Merci Gabin Bocquet. Les propositions de loi aide à mourir et soins palliatifs, elles seront examinées en séance à l'Assemblée nationale à partir de lundi prochain. Le texte sur la fin de vie précise notamment quels patients pourront prétendre à l'aide à mourir. Et sur ce point, la Haute Autorité de Santé vient de rendre un avis qui était très attendu. Plusieurs experts devaient définir les notions de pronostic vital engagé à moyen terme et de phase avancée. Tout cela pour éclairer les députés. Bonjour Alice Cachaner.
Bonjour.
Ces députés risquent de ne pas être beaucoup plus avancés.
Oui, car aucune des deux formulations envisagées dans la loi n'a été retenue. Après examen de la littérature scientifique et des législations à l'étranger, les experts estiment qu'il n'existe pas de consensus médical sur la définition de pronostic vital engagé à moyen terme, ni sur la notion de phase avancée, explique Claire Compagnon de la Haute Autorité de Santé.
Ce que montre la littérature aujourd'hui, c'est qu'il est impossible de prédire objectivement le temps qu'il reste à vivre à une personne, à un patient. Plus on connaît le patient, plus cette évaluation, elle risque d'être un peu faussée et d'être un peu surévaluée.
Pour Philippe Juvin, député Les Républicains, les conclusions de la Haute Autorité de Santé montrent la difficulté de restreindre l'accès à l'aide à mourir.
Depuis maintenant plusieurs mois, nous disons que les garde-fous sont soit fragiles, soit faux. Et la Haute Autorité de Santé nous dit, bah oui, le garde-fou sur le pronostic vital, il est très flou, puisqu'on peut passer de quelques heures à quelques années. On va probablement s'adresser à une population potentiellement de toutes les malades chroniques même.
Des craintes balayées par le rapporteur du texte, le centriste Olivier Falorni.
Il faut sortir des fake news qui sont régulièrement assénées. C'est remettre au cœur le malade, sa capacité évidemment de décision, le respect de sa volonté, mais aussi son état de santé. Et non pas une estimation impossible d'une durée de vie qu'il resterait éventuellement possible pour lui.
La Haute Autorité de Santé ne propose aucun autre critère alternatif. La question ne manquera donc pas d'animer les débats sur la fin de vie la semaine prochaine à l'Assemblée nationale.
Alice Cachaner, en Gironde, nous vous avons parlé hier de cet élu passé à tabac, c'était samedi, pour avoir tenté d'interrompre un rodéo sauvage d'une quinzaine de motards, commune de Goriaguet, une trentaine de kilomètres au nord de Bordeaux. Eh bien, quatre personnes, dont deux mineurs, ont été arrêtées ce matin. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Quel est leur profil ?
Bien, les deux plus jeunes ont 15 et 17 ans, les deux majeurs 18 et 21 ans. Et cette garde à vue doit permettre de déterminer leur rôle précis dans le déroulement des faits. Le conseiller municipal en question, Anthony Roland, a expliqué avoir d'abord failli être renversé par une première moto samedi soir vers 18h dans l'une des rues de ce village de 1500 habitants. L'élu se dirige ensuite vers le terrain de Baltrap pour demander à stopper ce rassemblement d'une quinzaine de motos, mais au bord du terrain, la discussion tourne court. L'élu est frappé d'abord avec un objet métallique, puis roué de coups au sol jusqu'à perdre connaissance, blessé au visage. Il souffre de plusieurs fractures et se voit prescrire 10 jours d'ITT. C'est un chiffre qui a une incidence sur les éventuelles suites judiciaires, puisque l'an dernier, la loi a changé. Des peines spécifiques plus lourdes ont été instaurées pour punir les violences qui visent les élus. Et si l'incapacité totale de travail est évaluée à plus de 8 jours, les auteurs encourent 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende.
Ariane Grissel, l'animateur Stéphane Plaza est en garde à vue depuis hier soir, interpellé à son domicile des Yvelines dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic de drogue. Il est suspecté d'être un consommateur régulier de cocaïne. Une faible quantité de cette drogue a d'ailleurs été retrouvée chez lui. Deux autres personnes sont également interrogées.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
La France aurait pu choisir de recevoir l'un des ministres du nouveau pouvoir syrien. L'entrevue aurait été plus discrète. Non, Emmanuel Macron fait le choix d'accueillir demain à l'Élysée le nouveau président syrien, l'homme qui a chassé le dictateur Bachar el-Assad, l'ex-djihadiste Ahmad al-Shara. La France redira qu'elle veut une nouvelle Syrie libre, stable, souveraine et respectueuse des composantes de la société syrienne. Voilà ce que disent ce matin les équipes du président de la République quand le Rassemblement national fait part, je cite, de sa stupeur et consternation par la voix de Marine Le Pen. Bonjour Marie-Pierre Vérot.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante en Turquie. Vous vous êtes rendue régulièrement en reportage en Syrie. Ces dernières semaines, Marie-Pierre, il est vrai que le pouvoir islamiste semble renier ses promesses du début.
Oui, il y a d'abord cette décision de ressusciter une institution de l'ère Assad, l'autorité centrale de supervision et d'inspection. Elle permet de contrôler les ministres et leur action. Les ministres d'ouverture, dont la nomination avait été saluée, notamment à Paris, femmes, chrétiens, alaouites, membres d'ONG, se voient donc placés sous tutelle. Mais plus inquiétante est la nomination comme commandant de la 86e division de l'armée, d'un chef de guerre sanctionné par les États-Unis, un mafieux dont les milices se sont rendues coupables de graves exactions, notamment des meurtres de civils très documentés, exécutions sommaires, trafic de femmes et d'enfants, yézidis, la liste est longue. Abu Atem Chakra, c'est son nom, commandera la région de Raqqa et le nord-est syrien. Or, sa milice est notamment devenue un outil entre les mains de la Turquie pour combattre les Kurdes de Syrie. Voilà de quoi jeter une ombre sur les discussions ouvertes entre le gouvernement central et les Kurdes auxquels la France porte une attention particulière. Sans oublier les récents massacres d'Alaouites, le rapport de la commission d'enquête se fait toujours attendre, les affrontements contre les Druzes, c'est donc un président qui devra donner des gages, qui sera demain reçu à l'Élysée.
Marie-Pierre Vérot, en direct d'Istanbul, le grand rival de la Turquie en Syrie. C'est Israël qui ne s'est pas privé de bombarder Damas, la capitale, ces derniers jours. Côté ouest, cette fois à Gaza, c'est une conquête en bonne et due forme que prépare l'armée israélienne avec occupation militaire, tout cela en maintenant fermés les points de passage pour l'aide humanitaire. Alors l'objectif, c'est d'amener le Hamas à la reddition, mais le mouvement islamiste fait savoir ce matin qu'il n'y a aucun sens à négocier. Étienne Monin, on vous retrouve. Pendant ce temps, Étienne, les 2 millions de Gazaouis vivent une crise humanitaire absolue.
Oui, tout ça, c'est un cran supplémentaire dans la descente aux enfers que subissent les habitants à Gaza. Ils sont sous le coup d'un blocus total de l'aide humanitaire depuis maintenant 2 mois. L'enclave s'est retrouvée dans la situation critique qui était la sienne avant la trêve en tout début d'année, dit Ziad Medouk. Il est professeur de français, toujours installé dans la ville de Gaza.
Avant le 19 janvier, il y avait un blocus, il y avait des fermetures de passage. Mais au moins dans le sud et dans le centre de la bande de Gaza, il y avait quelques camions qui passaient. Aujourd'hui, actuellement, il n'y a rien sur le marché, à part quelques boîtes de conserve avec des prix insupportables pour une famille de Gaza. Personne ne mange à sa faim à Gaza.
D'après le Programme alimentaire mondial, les stocks sont épuisés. D'après l'ONU, les boulangeries et les cuisines communautaires ont dû fermer. À nouveau, les petits bracelets de couleur rouge ou verte sont placés sur les bras des enfants pour évaluer la malnutrition. Jean-Faël Poitou est en charge du plaidoyer pour Action contre la faim au Moyen-Orient.
Les images qu'on voit des enfants malnutris, elles sont vraies, il existe. Il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau. Les femmes enceintes n'ont plus assez d'énergie, n'ont plus assez de lait pour pouvoir nourrir leurs enfants parce qu'il n'y a plus rien à manger. Elles sont aussi fatiguées. Donc effectivement, la malnutrition avait diminué, mais ces 2 mois ont préaugmenté les taux de malnutrition dans la bande de Gaza.
Et cette situation fait que les pillages et l'insécurité ont aussi refait leur apparition. Israël, de son côté, affirme qu'il reste suffisamment de nourriture dans l'enclave.
Étienne Monin, le calvaire de ces populations à Gaza pèsera-t-il dans l'élection du nouveau pape à partir de demain au Vatican? Les 133 cardinaux électeurs sont tous arrivés sur place. Désormais, le conclave débute demain après-midi. Et parmi les cardinaux qui seront papes ou qui feront le pape, figure justement le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Pizzaballa, l'homme qui s'est proposé comme otage du Hamas à la place des enfants israéliens.
Je suis prêt à un échange, n'importe quoi, si cela peut aider à la libération des otages et ramener ces enfants à la maison. Sans hésitation, je suis totalement disponible.
Pierre Battista Pizzaballa, Bruno Duvic, c'est la voix de l'Église dans une des zones de crise majeure de la planète.
La vie de Monseigneur Pizzaballa a basculé le 7 octobre 2023. Depuis, à Jérusalem, il doit gérer une tension permanente entre le Saint-Siège et le gouvernement israélien, surtout quand le pape évoque l'hypothèse d'un génocide à Gaza. À ses obsèques, il n'y avait que l'ambassadeur d'Israël à Rome. Et à l'image de François, qui appelait presque tous les jours la paroisse de Gaza, le cardinal voit dans cette poignée de fidèles le symbole d'une église qui résiste dans la guerre. Qu'il reste à Jérusalem ou qu'il aille à Rome, il devra donc retisser des liens. Fort heureusement, il connaît la région par cœur. Il y vit quasiment en permanence depuis les années 90, arrivé à l'origine pour des études bibliques. C'était alors sa première plongée dans un milieu pas pleinement chrétien. Lui qui est né il y a 60 ans dans la région de Bergame, où l'on est catholique dès le ventre de sa mère. Enfance campagnarde, dans des valeurs traditionnelles, ce qui peut en faire un homme de rassemblement. Franciscain, italien, connu de tous, on le crédite également d'avoir remis de l'ordre dans les comptes de l'Église en Terre Sainte. Dans un Vatican en déficit, c'est un atout de plus.
Bruno Duvic, correspondant d'Inter à Rome, et dans nos éditions du soir, portrait à nouveau de cardinaux qui vont peser dans cette élection que vous vivrez en direct sur Inter. L'Ukraine va-t-elle frapper les commémorations russes de la victoire sur l'Allemagne nazie? Ces commémorations débutent jeudi et vont durer 3 jours. Mais on a appris ce matin que l'Ukraine avait lancé la nuit dernière plus d'une centaine de drones sur le territoire russe, ciblant notamment Moscou. Le fonctionnement d'une dizaine d'aéroports a été perturbé selon les autorités russes. Moscou accueillera vendredi une grande parade militaire en présence de Vladimir Poutine, qui a décrété 3 jours de trêve sur le front, et la présidence russe a prévenu ce matin. En cas d'attaque, l'armée russe répondra immédiatement. Les syndicats lorrains d'ArcelorMittal ont fait le court déplacement du Luxembourg ce matin, non pas pour perturber, mais pour se faire voir des actionnaires du groupe sidérurgiste. Réunis en assemblée générale, une poignée de salariés venus demander des comptes après l'annonce de la suppression en France par le groupe de plus de 600 postes, qui s'ajoutent au gel de ses investissements sur le site de Dunkerque. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour Jérôme.
Camille, vous êtes sur place pour Inter, action symbolique donc des syndicats ce matin.
Oui, une vingtaine de chasubles de la CFDT, une dizaine de la CGT, salariés venus en car des usines de Florange, de l'autre côté de la frontière. Christophe Paré y est mécanicien et représentant CGT.
C'est l'assemblée générale des actionnaires qui gagne 0,55 centimes de dividendes par action. Ils sont bien gentils, mais nous, ils nous mettent un plan social dans la gueule. Donc actuellement, ils disent « tout va bien, mais on enlève des emplois ». Donc à un moment, il faut arrêter les conneries.
Chez tous les salariés, il y a la même crainte que ces 630 suppressions de postes en annoncent d'autres à venir.
J'ai encore été ce matin voir les copains sur le terrain. Les gars, ils m'ont dit « Christophe, ouais, ils m'ont dit, c'est qui le prochain? Quelle ligne va fermer ?» Donc nous, on n'a pas de réponse pour le moment, parce que là, ils nous ont déroulé un certain plan, et c'est ce plan-là, on a l'impression que c'est le premier volet. Donc du coup, après, est-ce qu'ils vont tout dérouler pour fermer toute la France? On ne sait pas. C'est pour ça que l'État, à un moment, il faut qu'ils bougent leurs fesses.
L'État et le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, qui a parlé aux syndicats en visio ce matin, échangent pas du tout rassurant, selon Jérôme Baron, secrétaire de la section CFDT de Florange.
Aujourd'hui, on a l'impression que l'État est à la botte d'ArcelorMittal. On va l'aider, on va lui faire des prix sur l'énergie, on va accélérer le plan européen. Alors on est conscient de la difficulté dans laquelle la France est par rapport à d'autres marchés mondiaux. Mais aujourd'hui, on parle de sauvegarde de l'emploi.
Et c'est d'ailleurs la demande apportée par les syndicats au ministre, des aides publiques pour sauver la sidérurgie française. D'accord, mais à condition qu'ArcelorMittal cesse de supprimer des emplois.
Camille Magnard en direct du Luxembourg avec les moyens techniques de Johanna Gabric. C'est le livre politique du jour, un livre enquête sur le fonctionnement de la France insoumise et de son leader, Jean-Luc Mélenchon. Il s'intitule « La meute ». Il est signé de deux journalistes du Monde et de Libération. Vous avez pu les entendre ce matin à 7h50. 50 sur France Inter. Ce livre révèle la face sombre du mouvement, menace, harcèlement, purge et brosse le portrait de nombreux cadres, dont Manuel Bompard, le coordinateur en chef de la France Insoumise, qui est décrit comme soumis à Jean-Luc Mélenchon. Manuel Bompard qui a répondu ce matin.
C'est un collage de ragots, ce qui s'apparente en fait vraiment à une fiction, puisque j'ai détecté à peu près à toutes les pages des informations qui sont des informations inexactes. Par exemple, dans ce livre, j'ai lu qu'à un moment, Jean-Luc Mélenchon se serait adressé à moi en me disant « Manuel Bompard, achète-toi un cerveau ». Bon, alors comme Jean-Luc Mélenchon n'a jamais dit ça, mais vous savez, normalement, un travail journalistique sérieux, c'est quand même un travail dans lequel on respecte un principe de contradictoire. Donc, comme j'ai rencontré les auteurs de ce livre dans la rédaction de cet ouvrage, je me disais que peut-être, je ne sais pas, vous qui êtes journaliste, si vous aviez eu ce type de travail à faire, vous m'auriez posé la question au moment où on se serait rencontrés pour savoir si c'était vrai ou pas, et puis j'aurais pu vous dire que c'était faux, et au moins, il n'y aurait pas eu quelque chose de faux qui aurait été écrit dans ce livre. Je vous prends un exemple, hein. Donc vous voyez, ça, j'ai vu que ça intéressait des gens, mais nous pas trop.
À la réaction du député insoumis Manuel Bompard à la sortie ce matin de son entrevue avec François Bayrou, il était reçu pour parler de la mise en place du scrutin législatif proportionnel dans notre pays. Il a plaidé pour une proportionnelle à un échelon régional. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, doit-il rendre sa Légion d'honneur ? La question se pose depuis sa condamnation définitive par la justice dans l'affaire Bismuth. Le président de la République, Emmanuel Macron, a déjà répondu en excluant cette possibilité. Mais les familles de décorés de la Légion d'honneur, enfants et petits-enfants, ont décidé d'insister, Charlotte Piret, et ils saisissent la justice administrative.
La condamnation définitive de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes dites Bismuth, celle qui lui vaut de porter un bracelet électronique depuis 3 mois, aurait dû, selon le code de la Légion d'honneur, entraîner sa dégradation. Mais dans les faits, l'ancien président est un condamné toujours décoré, choquant pour Julien Bayou, ancien secrétaire d'Europe Écologie Les Verts, mais surtout petit-fils d'un officier de la Légion d'honneur.
On est choqué finalement que les règles ne s'appliquent pas à Nicolas Sarkozy parce qu'il aurait été ancien président. C'est peut-être même le contraire. Ce n'est pas affaiblir la fonction de président que de retirer la Légion d'honneur, c'est la respecter. Quand on tolère qu'un ancien président repris de justice conserve la Légion d'honneur contre les textes, on s'allie à la fois la Légion d'honneur et la fonction de président.
Un avis que ne partage pas Emmanuel Macron, qui s'oppose clairement à l'exclusion de son prédécesseur, mais depuis une récente réforme, ce n'est plus à lui, président de la République, et donc de facto grand maître de la Légion d'honneur, de se prononcer, mais au grand chancelier nommé par le grand maître. D'où ce recours qui doit être formellement déposé cet après-midi, jour anniversaire de l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. Recours devant le tribunal administratif par plusieurs familles de décorés qui réclament, disent-elles, la simple application du droit.
Charlotte Piret, comment faire l'acquisition de toiles, d'œuvres d'art et de maîtres ? Quand on n'en a pas les moyens, la question se pose à la plupart des musées et de plus en plus, ces musées ont recours au financement participatif. C'est le cas du musée de Pont-Aven en Bretagne qui lance un appel pour acquérir une huile sur toile d'Émile Bernard, l'un des fondateurs de l'école de Pont-Aven aux côtés de Paul Gauguin. Alors ce tableau est une pièce exceptionnelle, mais plus de 100 000 euros, c'est un peu cher pour la conservatrice du musée Sophie Kervran qui a lancé une cagnotte en ligne.
On trouvait que pour cet anniversaire un petit peu symbolique, c'était intéressant et bien qu'il y ait une sorte d'engagement, d'engouement citoyens. Les amis du musée ont lancé une plateforme en ligne sur Hello Asso. Donc, il suffit d'aller mettre le montant que l'on souhaite avec à la clé un reçu fiscal et puis aussi une invitation pour la remise officielle de ce tableau le 23 juin. Et en effet, ce qu'on appelle le cartel, cette petite pancarte qui est à côté du tableau où on aura durant l'été l'ensemble des noms des donateurs et ensuite, ça sera sur le site internet lié à l'image de ce tableau. Donc, finalement, une sorte d'engagement sur le long terme et de se dire ce tableau, c'est finalement le tableau de l'ensemble des citoyens du territoire. C'est important aussi d'apporter aussi sa touche et sa pierre.
Alors, pour nos musées, ce financement participatif présente de nombreux avantages, mais ce n'est pas toujours la solution, tempère Marie Ballarini, enseignante-chercheuse à l'Université Paris-Dauphine.
Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste le début des années 2010 et la création des plateformes ont fait que c'était des outils qui ont pu se démocratiser. Ça permet de faire de la médiation, de la communication autour de pourquoi on achète cette œuvre, pourquoi elle est importante dans la collection, pourquoi on restaure cet objet. Les dangers, c'est que c'est pas économiquement très intéressant parce qu'en fait, il y a plein de coûts cachés. La plateforme, quand on en utilise une, le temps de travail des salariés qui vont faire de la communication, qui vont envoyer les reçus fiscaux. L'autre danger, c'est de rester sur des restaurations et des acquisitions d'objets particulièrement jolis, esthétiques, qui ne sont pas forcément représentatifs de la totalité des collections des musées de France, qui parfois sont pas particulièrement jolies, mais sont importants historiquement, scientifiquement.
Si vous voulez participer, le titre de l'œuvre, c'est le portrait du peintre Eric Forbes. Robertson à Pont-Aven, dossier signé Margot Barallon et nos confrères d'ici Brézizel. 13h29 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac, puis à 13h30 quand la parole de Gisèle Pellico inspire des femmes artistes. La chanteuse Suzanne et l'autrice Claire Berest viennent de publier deux textes. Elles ne se sont jamais rencontrées. Elles sont avec nous dans quelques instants. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, notre feuilleton, y a-t-il une vie après la politique à l'Assemblée nationale? Nous suivons l'ancien député André Chassaigne, de retour chez lui dans le Puy-de-Dôme. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cyril Petit et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui?
Eh bien de Pontivy dans le Morbihan à Écuisses en Saône-et-Loire en passant par Baraqueville en Aveyron. On tire les numéros des lotos associatifs, Jérôme.
Et avec vous Frédéric, un musicien.
Pierre Génisson, clarinettiste à même pas 40 ans. Il donne des concerts un peu partout dans le monde, se produit avec les orchestres les plus prestigieux et avec lui... C'est un tube de Calogero que nous écouterons si seulement je pouvais lui manquer. Une chanson dans laquelle il retrouve une partie de sa propre vie.
Témoignage très fort à suivre à tous les deux. Je vous dis à tout à l'heure.
France 2. Ce soir, la Seconde Guerre mondiale comme on ne l'avait jamais vue. Une plongée vertigineuse au cœur du conflit planétaire qui a changé nos vies. 1939-1945 et le monde bascule. Votre nouvelle série documentaire, ce soir à 21h10 sur France 2 et déjà sur la plateforme France.tv.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec le baume Hydra-Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Un ciel variable avec des averses au sud.
Oui, du sud-ouest vers le massif central, le Jura, les Alpes, les nuages sont nombreux avec des averses essentiellement sur le relief et sur les plaines du sud-ouest. Parfois un orage dans l'après-midi sur l'Aquitaine, l'Occitanie, le sud des Alpes et la Corse. Sur les autres régions du nord, un temps plus sec. Le ciel hésite entre nuages et éclaircies appréciables pour le moment, mais elles vont se réduire dans l'après-midi. Le vent de nord-est persiste sur ces régions du nord. Il renforce la sensation de fraîcheur. Pour avoir des éclaircies plus franches, direction la Méditerranée, de l'Aude vers le Languedoc, la Vallée du Rhône, le Var avec du vent jusqu'à 60 km à l'heure. Côté thermomètre, c'est toujours juste, hein, 12 à 15 degrés attendus près de la Manche, souvent 14 à 19 ailleurs, avec 17 au Mans, à Paris, Tours, Strasbourg ou Montélimar, jusqu'à 22 en Corse. Et puis demain, ce sera encore encombré du Jura vers les Alpes avec des averses, quelques averses aussi pour le Massif central, pour les Pyrénées et ailleurs un ciel souvent bien nuageux.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
C'était le 16 septembre 2024. Gisèle Pellico s'exprime pour la première fois devant micros et caméras devant le palais de justice d'Avignon. Quelques jours plus tôt, elle a pris la parole devant la cour criminelle où sont jugés 51 hommes pour viol et agression sexuelle. 51 hommes dont son ex-mari Dominique.
J'ai été profondément touchée par cet élan qui me donne une responsabilité. Grâce à vous tous, j'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout. Ce combat que je dédie à toutes les personnes, femmes et hommes, qui à travers le monde sont victimes de violences sexuelles. À toutes ces victimes, je veux leur dire aujourd'hui, regardez autour de vous, vous n'êtes pas seuls.
Ce jour-là, par ses mots, par son choix de refuser le huis clos pour son procès, elle devient une figure de la lutte contre les violences faites aux femmes et se produit ce que vous qualifiez de miracle. Claire Berest, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivaine, vous venez de publier La chair des autres, c'est aux éditions Albin Michel. C'est un livre inspiré des semaines que vous avez passées à suivre ce procès à Avignon. Procès que vous mettez en relation avec votre expérience personnelle, mais aussi avec les réflexions d'auteurs et de philosophes. Et ce procès a aussi inspiré notre seconde invitée, la chanteuse Suzanne. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous expliquez que ce procès a été un choc pour vous, qu'il a fait remonter à la surface le souvenir du viol dont vous avez été la victime il y a quelques années. Ce qui vous est arrivé, vous l'avez mis en mots et en musique il y a quelques jours et vous avez publié ce titre « Je t'accuse ».
D'abord il y a eu Gisèle, et puis il y a eu Sophie, Lisa, Khadija et Marie, et ma copine Claire, et puis il y a moi aussi. Et puis toutes celles qui n'ont jamais rien dit, mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire.
Chanson doublée d'un clip réalisé par Andréa Bescon avec les participations de Muriel Robin, de Catherine Ringer ou encore de Caroline Darian, la fille de Gisèle Pellicot. Suzanne, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez ressenti au moment du début du procès des viols de Mazan, comme on l'a baptisé? Quand Gisèle Pellicot a pris la parole, on l'a réécoutée.
Je pense que comme toute femme, tout homme, toute victime de violences sexuelles, quand on voit des affaires, même sans être victime indirectement, je pense qu'il y a eu un grand choc quand on a vu cette affaire apparaître dans les médias. Je pense que ça a même tourné jusqu'au fin fond du Japon. Enfin, c'est une affaire qui a tellement choqué l'humain, quoi. Tout simplement, on pensait pas que ce serait possible de voir autant de cruauté dans la violence. Donc, quand Gisèle dit « Regardez autour de vous, vous n'êtes pas seule », effectivement, je pense qu'on... Il y a quelque chose, il y a une plaie qui a pu s'ouvrir chez certaines personnes. Ça a pu ramener peut-être... des flashbacks. Moi, je sais qu'en tout cas, dans l'année 2024, je ne sais pas si c'est le procès Pellicot et le fait d'entendre Gisèle s'exprimer, etc., qui a fait que j'ai eu beaucoup de flashbacks, beaucoup de remontées de cette période que je n'avais pas vraiment réglée, apparemment. Et on va dire que moi, mon outil, c'est de pouvoir écrire des chansons. Il y a eu ce piano qui m'a aidé à briser mon silence. Donc, on va dire que Gisèle a eu le courage et a participé, je pense, à m'en donner un petit peu à cette période de ma vie, en tout cas en tant que femme et victime de violences sexuelles. Comme elle le dit, regardez autour de vous, vous n'êtes pas seule. Donc c'est d'abord une envie de briser mon silence, mais je savais que dans ce « Je t'accuse », je serais malheureusement pas seule.
C'est ça le miracle, je reprends votre mot Claire Berest, c'est ça le miracle de ce geste de Gisèle Pellicot?
Oui, le miracle ici se décline sous plusieurs aspects parce que on a oublié aujourd'hui qu'à l'origine c'était un fait divers et il n'avait pas tant que ça soulevé les passions. Il a fallu que ce procès commence pour que tout d'un coup les quelques journalistes qui avaient demandé l'accréditation au mois d'août pour se rendre à Avignon se transforment en une marée humaine. Et notamment, il y a eu une bascule, c'est ça le miracle, et la bascule, ça a été la première prise de parole de Madame Pellicot à l'intérieur de la cour criminelle, où elle s'est dressée dans cette robe rouge. Elle a parlé...
Le 5 septembre,
et effectivement, ce fait divers a éclaté sa structure et est devenu un fait sociétal. Et je pense que beaucoup, comme nous deux ici, nous avons été emportés dans cette bascule, et nous avons chacune une manière de réagir avec la musique, ou moins avec l'écriture.
Avec l'écriture, il y a de l'intime dans votre récit, Claire Berest. Il arrive tout à la fin du livre, comme si vous le mettiez à distance, en quelque sorte.
Oui, c'est vrai que mon dernier chapitre parle de ma propre expérience, mais c'est une conclusion qui n'est pas une conclusion. Et c'est vrai que quand j'écris, je suis un auteur, je ne suis ni un homme ni une femme, je n'ai pas de sexe, je n'ai pas de genre, je n'ai pas de pays. J'écris pour tenter d'éclairer la noirceur. Et je dois être sans jugement moral, avec personne. Et je dois approcher les faits pour y réfléchir, sans les juger. Ça n'empêche pas que la littérature permette qu'il y ait des interstices et que tout d'un coup, l'expérience personnelle puisse venir aussi éclairer une réflexion philosophique.
Alors, il y a eu ces prises de parole, ces femmes qui se sont déplacées pour aller voir ce procès, pour aller témoigner leur soutien à Gisèle Pellicot. Et j'ai le sentiment, Suzanne, que la publication de votre titre, il a relancé peut-être cette émotion-là. J'ai vu que beaucoup de gens, je crois que 500 000 personnes ont regardé le clip de votre titre. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il y ait un tel impact ?
Non, c'est triste. On fait le triste constat de voir justement que cette chanson parle à beaucoup. Comme disait si bien Claire, c'est éclairer la noirceur. Donc moi, avec cette chanson, j'avais la sensation de pouvoir peut-être réconforter un petit peu, à ma manière en tout cas, soutenir les victimes. Et on voit le nombre de victimes malheureusement sous les commentaires, quoi. Et c'est des hommes, des femmes, des enfants parfois. Enfin, on a des récits. Depuis que j'ai sorti la chanson, je reçois des récits très durs à lire, des récits qui ne devraient pas exister dans notre pays ou dans tous les pays du monde en tout cas. Et on sent que depuis la libération, depuis la libération de la parole et depuis MeToo, qu'est-ce qui se passe concrètement quand on sait que 94% des plaintes pour viol restent classées sans suite, 86% pour les agressions sexuelles, et qu'en France, toutes les 2 minutes 30, un viol ou une tentative de viol est commise sur autrui. Donc c'est assez flippant, et je pense qu'on a besoin de récits, on a besoin de chansons, on a besoin de s'unir, de se rassembler. Si ma chanson peut le faire un petit peu, c'est déjà une petite pierre à l'édifice.
Oui, parce qu'il ne faut pas se méprendre sur le titre de la chanson. Le « Je t'accuse », il n'est pas destiné à l'homme qui vous a violé, il est destiné à la justice.
Il est un peu pour tout le monde, ce « Je t'accuse ». Il est pour la justice, il est pour mon agresseur,
justice,
évidemment.
Est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu?
Oui, la société aussi. La justice, la société, nous tous. Quand aujourd'hui on voit que dans la rue, une femme peut hurler quand elle se fait agresser, que personne va s'arrêter, il y a quand même un truc où ça fait un petit peu peur. Donc oui, je m'adresse à la justice. Les chiffres parlent, c'est pas moi qui invente les chiffres. Et on espère, j'espère que cette chanson, dans 10 ans, ce sera un non-sujet, que sera tellement évolué qu'on se demandera même pourquoi elle a écrit ça, la Suzanne. Mais là, aujourd'hui, je pense que j'ai de quoi l'écrire, en tout cas.
Il y a de plus en plus de plaintes qui sont déposées, il y a de plus en plus de procès aussi, mais ça reste une part très faible par rapport à l'ensemble des plaintes qui sont déposées. Effectivement, vous posez cette question, Suzanne, de l'attitude des hommes, vous la posez aussi, Claire Berest, dans votre livre, et vous revenez sur une expression qu'on a beaucoup entendue il y a quelques mois, la culture du viol. Il y aurait une culture du viol, et vous vous dites, on est plutôt en face de l'inculture du viol. Je vous cite, ces hommes, donc condamnés au procès des viols de Mazan, ont des lacunes d'éducation et de culture pour cerner le viol. Ils sont incultes à ce sujet, ce qui ne les déresponsabilise nullement au regard de la loi, mais cela donne grande matière à réflexion sur nos frères humains.
Oui, parce que comme je le disais au préalable, j'ai essayé d'approcher tout le monde dans cette pièce comme mes frères et mes sœurs humains, sans faire de distinction. Et je dois dire que moi, j'ai entendu la chanson par hasard, sans savoir qu'on allait se retrouver dans le même studio. Elle m'a tout de suite capturée, j'ai été prise, elle m'a énormément touchée. Mais c'est vrai que moi, je n'accuserai pas la justice, dans le sens où j'aurais envie du débat. La justice, c'est beaucoup d'hommes et de femmes, c'est des magistrats, c'est des avocats, c'est des flics, c'est des juges, et certains font aussi un boulot extrêmement difficile et assez admirable. Mais c'est pour ça que j'ouvrirai le débat.
J'ai des commentaires de gendarmes. Non, mais
pour rebondir simplement sur l'affaire Pellicot, le juge Arata qui était dans la salle, la procureure Laure Chabot, l'avocate générale, simplement la juge d'instruction, Gwenella Journeau, qui a instruite l'affaire, s'est pris beaucoup de reproches, de lacunes de l'instruction. Et en fait, on peut toujours regarder le verre à moitié vide, à moitié plein. Il y avait 70 hommes sur ces vidéos, elle en a arrêté 50. On pourrait dire, et les 20 autres. Mais on pourrait dire aussi, merci d'avoir arrêté les 50. Et vous voyez, et ce procès, il y a beaucoup d'endroits. Cette femme, elle a expliqué à la barre, parce qu'elle a déposé à la barre, que quand on lui a donné l'affaire, elle avait 90 dossiers sur son bureau. La justice n'a pas de moyens. Et parfois, je pense que ce n'est pas le manque de volonté des protagonistes qui font un boulot de chien. C'est bien sûr le manque de moyens, sans évidemment minimiser certains fiascos judiciaires et le fait que la prise de plainte pour les agressions sexuelles en France sont extrêmement difficiles, un parcours du combattant. Moi, j'essaie d'embrasser tout parce que je veux porter mon attention aux autres et à tous les autres.
Mais sur cette question de culture et d'éducation, qu'est-ce qu'on fait? Et est-ce que ce procès, la parole de Gisèle Pellicot, a pu changer les choses? Et notamment, pas le débat, mais en tout cas, rappeler notamment les notions de consentement, comme ça a pu être fait à l'occasion du procès.
C'est vrai que moi, je suis écrivain, donc je m'interroge sur la sémantique et la culture du viol. La culture, c'est quelque chose qui s'agrandit, qui pousse, que l'on nourrit, que l'on construit. Pour désigner, et donc je pense que c'est très important le concept de culture du viol qui dit que les viols sexuels sont un fléau systémique et non pas simplement des déviances de quelques individus. Mais je pense que le terme nous doit nous donner à réflexion parce qu'il s'agit aussi en corollaire d'inculture. Les hommes que j'ai vus dans cette salle, les 50 co-accusés, je ne parle pas de Dominique Pellicot qui a un cas un petit peu à part. Les 50 co-accusés, j'ai vu aussi beaucoup de personnes qui sont délaissées pour compte à l'origine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les gens sont devenus ce qu'ils sont devenus. C'est tout le processus.
C'est le parcours.
Je ne peux pas simplement les jeter dans un puits, dire 20 ans pour chacun, basta cosy. Ça ne m'intéresse pas.
Et puis c'est pas comme ils ça qu'on va régler différents. Le problème.
En revanche, ils étaient tous coupables du crime du viol et ils ont tous été condamnés pour cela. Ça, c'est la justice. Ensuite, c'est intéressant d'aller dans le détail, précisément pour tenter d'endiguer ce phénomène et ce fléau. Il faut regarder dans le détail.
Suzanne, vous nous disiez que des gendarmes vous ont écrit ces derniers jours.
J'ai reçu pas mal de récits de gendarmes en DM ou dans les commentaires qui me disent justement qu'ils reçoivent les plaintes. Ils font au maximum justement pour être à l'écoute de la victime, pour être juste au moment où ils prennent ces plaintes, et que malheureusement eux aussi sont très frustrés de voir que leur travail ne va pas jusqu'au bout, qu'ils ne peuvent pas, parce que leur job c'est de protéger aussi les victimes, c'est de les entendre et de faire en sorte que justice reconnaisse qu'elles sont victimes. Ils sont très frustrés pour la plupart de dire que leur travail ne va pas jusqu'au bout. Donc encore une fois, on dit que la justice, on parlait du fait que les hommes n'avaient pas cette culture du viol, mais qui fait la justice ? Est-ce qu'il y a plus d'hommes ou plus de femmes ? Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses à soulever aussi comme question. Est-ce que ces magistrats, ces juges sont des hommes ou sont des femmes ? Est-ce que justement, du coup, ils comprennent peut-être un peu moins pourquoi dans les violences sexuelles, la justice a l'air de moins de répondre, a l'air de laisser un peu plus de silence ? Je pense qu'il y a encore tellement de questions à se poser concernant
est-ce
la justice.
Est-ce que c'est plus long parce que nous sommes des femmes ?
Est-ce que c'est plus long parce que nous sommes des femmes ? Est-ce que tout ce manque de preuves, quand on voit le procès Pellico, il y a quand même beaucoup de preuves. On nous dit souvent c'est le manque de preuves qui fait qu'on ne peut pas, mais là, quand il y a des preuves, c'est aussi compliqué. Bon, c'est beaucoup de questions à soulever encore.
Questions et témoignages de Christelle. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Vous nous appelez du département de l'Oise. Je crois que vous vouliez nous parler de votre fille qui est en troisième.
Oui, tout à fait. Ma fille qui est en troisième, qui se faisait embêter depuis 2 ans par un garçon de son âge, où c'était toujours un peu minimisé parce que, oui, effectivement, il est brusque, c'est dans la cour, etc. Et il y a quelques semaines, elle est rentrée en larmes, elle s'est mise par terre dans sa chambre en me disant « demain, je pourrais à nouveau pas aller en cours ». Et on a beaucoup suivi le procès Pellico. On en a parlé toutes les deux en lui disant « mais qu'est-ce que t'as appris ?» Eh bien, on a appris avec ce procès qu'on doit se redresser, qu'on doit parler, dire qu'on n'est pas d'accord et ce qui nous est arrivé. Ce qui fait que le lendemain, elle a réussi à aller en cours. Elle a été convoquée dans le bureau du directeur avec ce garçon. Elle a réussi. Elle me dit, j'ai vraiment pensé au tribunal en me disant, oui, je suis là parce qu'il est arrivé quelque chose, j'ai le droit de le dire. Et enfin, cet élève a été puni, entre guillemets. En tout cas, on lui a mis un stop. Et depuis, il n'y a pas eu d'autres incidents. Donc, je voulais vraiment témoigner par rapport à ça. Ce procès, il a ouvert des portes. Et ma fille écoute énormément la chanson « Je t'accuse » de Suzanne. On vous a vu dans cet avou. Ça a été un grand moment pour nous. Et voilà, ça ouvre la voie pour nos filles qui ont le courage et la force de se redresser. En tout cas, merci beaucoup.
Merci infiniment Christelle pour votre appel et tout notre soutien évidemment pour votre fille. Merci à toutes les deux, merci Claire Berès, merci Suzanne d'avoir été avec nous, d'avoir suscité aussi le témoignage qu'on vient d'entendre. Suzanne en tournée partout en France et à partir du 13 novembre, vous serez le 21 mars 2026, on a un peu de temps mais gardons cette date en tête au Zénith de Paris. Claire Berès, La chair des autres, c'est aux éditions Albin Michel, 13h46 sur Inter. L'heure de notre feuilleton, une semaine dans la vie d'un ex-député, le communiste André Chassaigne. 74 ans, il a tourné la page il y a un peu plus d'un mois et transmis son écharpe à son suppléant. Le voilà donc de retour sur ses terres, dans le Puy-de-Dôme, dont il était l'élu depuis 23 ans. Nous le suivons toute cette semaine et aujourd'hui, sur un marché, nous sommes à Ambert, entre Clermont et Saint-Étienne. Il est venu distribuer une lettre.
Là, c'est les producteurs fermiers. Et c'est un gros marché ici. Et c'est vraiment tous des producteurs que je connais, là, pour la plupart.
Ouais. Donc vous allez pouvoir venir maintenant, le jeudi ?
Oui, je pense. Et puis je viendrai distribuer. C'est ma dernière lettre. Je vous l'ai donnée, non ?
Oui, je l'ai. Ouais. Je l'ai.
C'est une lettre aux habitants de la circonscription, qui est très simple, sur une page, pour que ça soit lu. Et j'explique les raisons de mon départ.
C'est pas une bonne nouvelle pour nous, parce qu'on va le regretter. Quand on voit ce que sont devenus les politiques aujourd'hui, voilà, c'est triste. Le niveau des débats est lamentable. C'est même plus des débats d'ailleurs. Nous, on est producteurs de petits fruits rouges en plein champ. On transforme sur place, on fait des sirops, des confitures, des coulis à la ferme. Et on vend, c'est le seul marché que je fais, c'est le marché d'Ambert.
Dédé.
Ça va ? alors cette copine qui fait
nationale,
qui fait
en même temps,
qui fait de la peinture.
Oui.
Elle, c'est une artiste.
Oui. J'avais même envie de faire ton portrait parce que depuis des années, t'étais là tout le temps pour nous, pour tout le monde. Tu te souviens de mes parents ?
Eh oui.
Tout ça.
Son frère est maire d'un tout petit village. Oui. Le Bougeron.
Oui.
Mais je reviendrai, hein.
Oui, oui, oui.
Je viendrai au vernissage d'Expo. Oui.
Bon, il faut appeler où ?
Même numéro.
Même numéro, ça marche.
Et moi, je vais être, en fait, le suppléant sans lettre. D'accord. C'est-à-dire, je vais recevoir à ma permanence à Saint-Amand. La seule chose, c'est que les courriers seront signés de Julien Brugerolles. Oui. Et pendant toute une période de transition, sans lui faire de l'ombre, hein, oui, je vais faire un travail de tâcheron.
Merci pour tout, Dédé, vraiment.
Ça continuera avec Julien.
Voilà. Oui, oui. Ça oui, parce qu'il a une bonne tête qui plaît bien.
Ah,
oui,
voilà.
Oui, oui. Il a une bonne tête et je le sens bien, ce gars-là. Voilà. Bon.
Ça va ?
Ça va, ouais.
Je
vais avoir 77 à la fin de l'année.
Ah, t'es un peu plus vieux que moi.
Eh oui, 2 ans de plus.
Et tu as fait quoi alors là ?
Bah, j'ai fait de l'artisanat. Je fais mon jardin, les rollinettes, tranquille.
Ça va être votre vie aussi, monsieur Chavannes ?
Ah, pas le jardin, non, je ne suis pas branché jardin.
Non, mais j'ai jamais été branché jardin, à mon ami.
Je vais lire, je vais écrire.
Voilà.
Je vais m'occuper un peu aussi de ma famille. Je pars une semaine chez ma fille Aurélie, là, qui est à Lorient.
Oui, voilà.
Demain, je pars une semaine.
Il faut en profiter.
Voilà. Et je retrouve mon mandat de maire adjoint.
Je garde un bon souvenir de monsieur le député pour l'avoir vu à l'œuvre, à la sortie de l'usine à Vertot. Alors ça, c'était top.
Ah oui.
C'est des choses qui marquent, ça, quand même.
Je venais devant l'usine, Roapi, Sanofi, avant c'était.
Bah, c'était pour les élections qu'on le voyait.
Ah, ouais, ouais.
Ou quand il y avait des luttes sociales.
Oui, et les luttes sociales aussi. Oui, ouais, tout à fait. Ouais,
quand
ouais.
Il y avait des luttes.
Bah, moi, je suis parti maintenant. Ça fait 10 ans que je suis parti.
Combien ?
10 ans. J'ai commencé ouvrier, puis j'ai terminé technicien d'atelier. Et voilà.
Voilà.
Toute une vie passée là-bas. 30 ans.
Et qu'est-ce que tu fais de ta retraite ? Faut que je m'apprenne.
Ah,
parce que comment on peut s'apprendre à vieillir ?
Eh bien, la retraite, déjà, nous, on a la chance d'avoir un fils qui est installé à la Réunion. Et donc, on y va régulièrement. Et on y passe 5 mois de l'année.
Ah, d'accord.
Ouais, c'est bien, hein ?
Allez,
bien,
on va continuer.
Bonne retraite.
Parce que on a fait 2 mètres.
Je pense pas que ce soit de la retraite, là.
C'est pas de la retraite, pour
lui. Ah non, 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 je parle pour lui, ça va pas être de la retraite. Hein. Faut pas croire, hein.
Merci, bon. Salut, hein. Oh là là là. Il y a des fois, je vois beaucoup de monde, j'ai quelques blocages sur les familles, et là tout me revient. Comme s'il y avait quelque chose qui s'était lâché sur les souvenirs de famille des uns et des autres. C'est un attachement affectif que les gens ont pour moi, en fait, depuis le temps.
André Chassaigne, au micro de Claire Flochet. La suite demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le mardi à 13h51. Cyril Petit du journal Ouest France nous raconte ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, petites histoires de loto.
Le 5, le 30, le 9, je vous emmène, Jérôme, à Pontivy, dans le Morbihan, où vient d'avoir lieu le 17e méga loto des supporters du club de foot. C'est le plus grand loto associatif de France. Et ces chiffres, Jérôme, nous tournent boule.
Ça
plus de 4200 participants, lit-on dans Ouest France, répartis dans 2 salles et venus du Grand Ouest, mais aussi de Marseille, Lille, Strasbourg, des places réservées des mois à l'avance et presque aussi vite que celles pour les concerts de Jules. 2000 personnes refusées, des milliers de cartons de jeux vendus à partir de 4 euros, 67 parties pour autant de lots, 100 000 euros de récompenses, dont le Graal, un camping-car à 69 000 euros.
C'est la Coupe du Monde du loto, votre truc, Cyril Petit. Quelle est la recette de ce succès ?
Eh bien, voilà ce que les participants disent souvent à Roger Kempf, l'organisateur depuis 25 ans, qui cherche un successeur pour 2026. On repart les mains vides, mais on a passé une bonne journée. Alors oui, convivialité, bonne ambiance, plaisir du jeu, Jérôme, mais soyons honnêtes, tout le monde vient pour gagner, complète Roger Kempf. Il faut dire que les lots sont gros, camping-car donc, mais aussi voitures, scooters, voyages, réfrigérateurs, smartphones ou encore des cartes cadeaux.
Alors ce loto de Pontivy est exceptionnel, mais dans d'autres lotos, on constate que ce phénomène cartonne.
Oui, dans chaque ville, dans chaque village, on remplit des grilles. Alors j'ai échangé avec Morgane Dantan, elle est responsable marketing de Lotokin, une PME du Lot, spécialisée dans le matériel de jeu depuis 40 ans. Chaque année, elle fournit 50 millions de cartes de loto aux associations. Selon ses estimations, estimations, entre 100 000 et 150 000 lotos sont organisés chaque année en France pour environ 1 million de joueurs. Alors, la crise du pouvoir d'achat a deux conséquences. D'abord, le public s'est rajeuni. Et puis, les bons d'achat dématérialisés attirent davantage que les paniers garnis. Et puis, les lotos sont aussi une des rares activités créant des moments de convivialité dans certains villages l'hiver.
Cela permet aussi, Cyril, de faire vivre le tissu associatif.
Oui, les bénéfices servent à financer les actions des associations, mais la pratique est très encadrée par la loi. En voici quelques règles. Le loto doit être à but non lucratif pour des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, éducatives, sportives ou culturelles, ou en vue de la protection animale ou de la défense de l'environnement. Mmh. Il a lieu dans un cercle restreint et ne doit pas être trop répété. Les mises sont de faible valeur, inférieure à 20 euros. Pas de limite de valeur pour les lots, mais ce ne peut pas être des sommes d'argent. Et rappelons, hein, Jérôme, les risques d'addiction aux jeux de hasard et l'existence d'un site joueurinfoservice.fr.
Pour terminer, Cyril, évoquons un mode de tirage des numéros qui est un peu particulier.
Oui, Jérôme, ici, pas de machine électronique, de boulier ou de sac, non. Les numéros sont définis en fonction des déjections de vaches sur un grand terrain quadrillé. On appelle ça le loto-bouze. On ne mise que sur un numéro, car pour le connaître, il faut parfois attendre une heure. Je ne vous explique pas pourquoi. Jérôme, ces dernières semaines, il y a eu des loto-bouzes à Saint-Hilaire-des-Landes, en Ille-et-Vilaine, à Baraqueville, en Aveyron, ou, pour la première fois, au Cateau, Cambrésis, dans le Nord. Mais parfois, tout ne se passe pas comme prévu. Ah. À Écuisses, en Saône-et-Loire, la semaine dernière, il a fallu remplacer les vaches par des moutons, nous apprend le journal local, le JSL. Alors, comment est-ce qu'on appelle ce loto, Jérôme? Le loto-crotte, ou, si l'on s'attache au nom familier de la matière fécale des moutons, ce serait le loto-pétoulette.
Ça vous fait rire. Cyril Petit pour C'est la France. À mardi prochain, Cyril, de C'est la France. Ah, c'est une chanson, c'est un grand clarinettiste que l'on retrouve à votre micro aujourd'hui, Frédéric Pommier. Il s'agit de Pierre Génisson.
Pierre Génisson qui a récemment fait paraître un nouvel album, Songbook, dans lequel il reprend des standards américains comme des classiques de la chanson française. Et c'est d'un tube de Calogero qu'il a choisi de me parler, sa chanson « Si seulement je pouvais lui manquer ».
Cette chanson m'a littéralement bouleversé, parce que j'aurais pu totalement l'écrire. Enfin, je n'ai pas la prétention d'écrire quoi que ce soit, évidemment, mais j'aurais pu parler de mon histoire qui était semblable à ce que j'entendais dans ses paroles. Je suis issu d'une famille marseillaise, monoparentale. Mon père a été éloigné de nous quand j'étais très jeune, pour notre sécurité. Et donc j'ai grandi dans le manque d'un père que Calogero décrit avec une grande forme de pudeur et de sincérité dans cette chanson. Et le rôle d'un père, évidemment, pour un homme, vital, parce que c'est un modèle, c'est un référent qui vous donne la voix dans ce que vous voulez faire. Et quand on n'a pas ça, on le cherche partout, tout le temps.
Est-ce que ça veut dire que quand vous étiez petit et que vous voyez vos copains à côté qui avaient des papas, vous étiez envieux de cette situation-là ?
Envieux, c'est pas vraiment le terme, plus honteux qu'envieux. Honteux d'être différent.
Vous disiez que votre père a été éloigné de sa famille pour des raisons de sécurité. C'était un homme violent.
C'était un homme qui était un danger pour ses enfants. Donc, bien sûr, il a été éloigné par la justice, et c'est tant mieux. Mais quand j'ai découvert cette chanson, d'un coup, il m'est apparu comme une espèce de psychothérapie. Tous ces manques, en fait, qui relevaient de ma vie d'homme. Et j'ai compris qu'il fallait que, évidemment, d'abord, que je le retrouve. J'en avais encore la possibilité, il était encore de ce monde à ce moment-là. Et j'avais des choses évidemment à lui pardonner. Et j'ai beaucoup pleuré.
Il suffirait simplement qu'il m'appelle, d'où vient ma vie, certainement, pas du ciel. Raconter mon enfance, son absence, tous les jours, comment briser le silence qui l'entoure.
C'est en 2004 qu'est sortie cette chanson de Calogero, Frédéric.
Pierre Génisson venait de s'installer à Paris, il avait 18 ans, et c'est peu après qu'il est donc allé revoir son père.
Ça s'est passé d'une banalité son nom. Enfin, comme si, en fait... C'était une étape juste nécessaire. Et d'ailleurs, c'était nécessaire, parce qu'entre quelques années après, il est décédé.
Vous avez eu la réponse à cette question-là, si seulement je pouvais lui manquer ?
Bien sûr que je me suis posé cette question à peu près un milliard de fois. Et étonnamment, quand je l'ai vu, tout ça a été balayé, parce que j'avais fait le deuil.
Du père ?
Du père. Et j'ai fait la paix avec moi-même.
Je vis dans un autre monde. Je m'accroche tous les jours. Je briserai le silence qui m'entoure.
Et est-ce que vous diriez que cette chanson, elle vous a aidé à faire la paix avec cette histoire et avec ce manque ?
J'ai envie de vous dire que c'est la magie des chansons, et particulièrement celle-là parce qu'elle raconte une partie de ma vie. C'est un médicament, c'est une thérapie qui est capable de vous faire sortir l'affection, la tendresse que vous n'arrivez pas à dire, et même la colère que vous n'osez pas exprimer. Et évidemment, cette chanson a été... une pierre importante de mon étape de vie. Et je remercie Calogero, vraiment, pour l'aide qu'il m'a apportée sans le savoir. Je suis sûr qu'il a aidé beaucoup d'hommes.
Est-ce qu'il va me faire un signe ? Manquer d'un père n'est pas un crime. J'ai qu'une prière à lui adresser. Si seulement je pouvais lui manquer.
Si seulement je pouvais lui manquer. Calogero, c'était donc Frédéric, Le choix et les confidences. Du clarinettiste Pierre Génisson.
Pierre Génisson, dont je vous conseille le dernier album, son titre Songbook.
Merci Frédéric et à demain.